Je veux dire que tout pape est l'objet d'un véritable culte. Ratzinger, quand il est élu, et quand il démissionne, est aussi l'objet d'un véritable culte. Regardez, il y a eu plusieurs hors-série qui sont parus à la gloire de Benoît XVI. Le Figaro a fait un hors-série.
Rien d'étonnant, le Figaro...
Paris Match a fait aussi l'éloge de Benoît XVI. Bon, donc là, il y a quelque chose de classique. Vous ne verrez pas la presse, en général, décrier un pape. Alors, en ce qui concerne le nouveau pape François, il a joué sur le contraste avec son prédécesseur, distant, appréciant le luxe aussi, il faut bien le dire, dans sa présentation, dans sa prestance, dans ses gestes. C'est une manière de s'affirmer en contraste avec son prédécesseur. Il a fait un certain nombre de gestes, de paroles aussi. Bon, vous avez évoqué le Vendredi Saint où il lave les pieds. Tous les évêques et tous les papes font ça, le Vendredi Saint. C'est pas nouveau, ça. Par contre, on voit des choses nouvelles. À peine élu, quittant la chapelle Sixtine, au lieu de prendre la limousine qu'on lui avance, il prend le bus des cardinaux pour rentrer à la maison Sainte-Marthe. Et puis, il décide d'y rester, au lieu d'aller occuper les appartements pontificaux. Il va régler la note de l'hôtel où il était descendu. Alors là, c'est extraordinaire. Bon. Mais il y a aussi des gestes qui sont en contraste avec son prédécesseur. Quand le Vendredi Saint au Colisée, il évoque nos amis musulmans, il n'est pas du tout dans la ligne de Ratzinger, parce que Ratzinger était extrêmement distant. Ratzinger considérait qu'il ne fallait rien lâcher aux musulmans en Europe, compte tenu des chrétiens qui étaient effectivement, dans un nombre de pays arabes, l'objet de persécutions. Bon, il évoque aussi l'Église des pauvres, mais aussi le peuple de Dieu. Alors, le peuple de Dieu, c'est, on pourrait dire, banal depuis Vatican II. Sauf que Ratzinger a déjà, avant d'être pape, en 85, publié dans ses entretiens une critique de la notion de peuple de Dieu, parce que ça faisait trop collectiviste. Donc, vous voyez, toute une série de gestes et de paroles où aussi il se démarque de son prédécesseur. Quant à ce qu'il a fait sous la junte,
alors,
moi, je ne peux rien apporter de nouveau à ce qui a été dit et écrit. Je remarque seulement deux témoignages contradictoires, vous allez voir. Dernièrement, le prix Nobel de la paix argentin, Pérez Esquivel, a fait des déclarations tout à fait favorables au pape François en disant que pendant la junte, il avait eu une diplomatie silencieuse. Alors oui, une diplomatie silencieuse, ça ne va pas très loin. Ça fait penser aussi à Pie XII pendant la guerre et à son silence. Mais quand même, il essaye de le dégager de, des accusations.
Habemus papam.
Le pape n'a rien eu à voir avec la dictature. Il n'a pas été complice de la dictature.
Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix en 1980, 21 mars 2013.
Ce n'est pas l'évêque qui a été le plus en pointe sur la défense des droits de l'homme, parce qu'il a préféré une diplomatie silencieuse. Demander des nouvelles des gens disparus, des gens faits prisonniers, mais d'aucune façon on peut le lier à la dictature. Le président de la Cour suprême de justice a dit qu'il n'y avait aucune preuve ni d'accusation sur ce thème. Et le pape a dit très clairement de la défense des droits de l'homme qu'il faut chercher la vérité, la justice et la réparation.
De même, l'ex-franciscain Leonardo Boff, théologien de la libération.
Le brésilien.
Oui, le brésilien cette fois-ci, a dit que le pape François allait bouleverser l'Église, même sur les questions de morale sexuelle.